Tatapum!
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la 62e édition de Tatapoum. Tatapoum, une émission où on écoute et où on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche du punk, du rock, du garage et autres musiques bruyantes. Avec ce soir les cyclistes de la critique rock, puisqu'on retrouvera Guillaume, Mathieu, Cédric, Héloïse, Marion et Bibi autour des micros, autour des boutons. Pour ce Paris-Roubaix de la critique rock, nous passerons ce soir par Los Angeles, puis quelque part dans l'Oise. Enfin, nous irons à Cincinnati, Ohio, et nous atterrirons à Austin, Texas, puisque aujourd'hui, dans l'enfer du Nord, nous écouterons LA Witch, Règlement, Corker et Sklos. On va commencer par LA Witch, et c'est Mathieu qui nous a sélectionné un premier extrait de leur nouvel album, 777. Ça, c'était LA Witch avec leur nouvel album. Et c'est Mathieu qui nous en parle.
Voilà, LA Witch, c'est un trio féminin qui s'est formé il y a plus d'une dizaine d'années à Los Angeles et qui sort ici son troisième album depuis 2017. Alors cet album, on peut estimer qu'il est moins psychédélique que les précédents. Il flirte souvent avec un genre de goth plutôt réussi, même si on sent que les rythmiques sont très diverses et les influences sont vraiment très diverses, qui peuvent, par exemple, incorporer du Lydia Lunch autant que du Gitane Diman. Alors on n'est pas dans le dark complet. Parfois la basse pourrait le laisser entendre, mais les tempos et la guitare éclairent tout cela d'une manière assez réussie. Et les rares parties de clavier passent presque inaperçues, et ça c'est vraiment une bonne chose. Pour l'anecdote, c'est un album qui a été enregistré à Paris. Alors, sans savoir si c'est le fait d'enregistrer à Paris, ça explique le changement de style, la première écoute de cet album qui s'appelle Dog God, elle m'a demandé un petit effort pour rentrer dans l'album, mais je trouve que au fil des écoutes, cet album acquiert une forme d'addiction assez bienvenue. Et donc voilà, moi j'attends simplement la version live pour confirmer cette bonne impression.
Héloïse, même bonne impression sur toi ?
Plutôt. Alors, Dog God est en fait un album assez barré, du moins en première approche. Son titre, par exemple, est un palindrome fusionnant Dog et God, soit une exaltation de la soumission et une subversion du divin, clin d'œil à la pureté des chiens et reconnaissance de leur amour inconditionnel et de leur nature protectrice, qui va à l'encontre des divers péjoratifs associés à l'espèce. Selon la guitariste Sanchez, il existerait un lien symbolique entre les femmes et les chiens qui exprime la position subalterne des femmes dans la société. C'est assez barré, on le voit sous ses allures féminines et quelque peu intello, le disque a tout pour ravir les lecteurs des Inrecuptibles, mais pour le reste, c'est un disque que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très élégant et mélancolique, comme si le romantisme de Paris où il a été enregistré avait infusé l'album. Dog God repose sur des sonorités lentes et lancinantes qui sont biberonnées à la fuzz, où à la dextérité des musiciennes se mêle la sensualité du chant. Pour conclure, je dirais que ce n'est pas très Tata Poum dans son exécution, mais c'est tout de même un compagnon idéal pour lutter contre le blues du dimanche soir ou la détestation du lundi matin.
Guillaume.
Oui, je reconnais aussi la qualité dans ce disque qui se révèle solide en bien des points, quoique d'une facture passablement classique, ce qui en fait d'ailleurs sa qualité et sa limite. Voilà, résumé mon ressenti. Car immédiatement, c'est sûr, le jeu de guitare, c'est le jeu de guitare séduit, car d'un niveau supérieur à la moyenne. Son style tour à tour sautillant ou langoureux ressemble à un mélange entre celui des Cure ou des Cocteau Twins. Et de même, la voix légèrement rauque de la chanteuse fait-elle penser tout à la fois à celle de Christine Hirsch des Flowing Muses ou aux susurrations de Hope Sandoval de Mazzy Star. Autant dire que les fondamentaux sont bons et dès lors, l'appréciation ne peut être que difficilement mauvaise. Mais c'est pourtant aussi la limite de ce Dog God. Je le trouve aussi conjointement aussi limité qu'il est réussi. C'est à la fois bien fait, mais ça ne transcende jamais l'armature sur laquelle tout repose. C'est d'un même mouvement agréable et reposant, tout en étant agaçant et frustrant parce que l'exercice stylistique ne va jamais assez loin. Donc, pour moi, il m'en aurait fallu davantage pour être pleinement conquis par le disque.
Cédric.
Alors moi, je trouve que c'est une très belle réussite, que c'est une émission qui commence plutôt de belle manière. C'était une grosse surprise quand même, ce troisième album qui était attendu de Helewitch. Hein, on les avait laissés plutôt sur des sons psyché garage, un peu 60s, voire même un peu ensoleillé. Et on les retrouve ici sur des riffs sombres de la New Wave de la fin des années 70, des débuts 80. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en sait trop rien, mais peut-être que les temps ne sont peut-être pas complètement à la fête en ce moment, que ça pourrait expliquer cela. On retrouve d'évidentes influences Cure-est, hein, ça c'est sûr, sur pas mal de titres, les Cure des premières périodes et divisionnesques, et on va pas se plaindre de ça. Mais on repère quand même un décalage par rapport à la New Wave du début des années 80, dans une morgue plus assumée, liée à la voix sombre et nonchalante de Sanchez, et avec un petit côté Courtney Love dans cette manière de chanter, je trouve. Alors la section rythmique, elle est très présente, avec une basse d'une belle pesanteur, notamment sur The Lines, par exemple. Une batterie sèche et des riffs qui accrochent, et le tout est vraiment accompagné d'une multitude d'effets qui parsèment tout l'album. Alors l'album se déploie sur un post-punk croisé avec des airs de blues, comme sur Dog God par exemple, ou sur des ballades vaporeuses, et les paroles sont à l'avenant, comme le disait Héloïse en citant les propos de la chanteuse, on voit bien qu'elle veut raconter des passions sombres, tourmentées, comme une sorte d'exutoire dans ce disque. Je peux citer « Tu m'as aimé comme une poupée précieuse, tu m'as léché comme un chien affamé, j'étais ton amant dans chaque vie, je ne suis pas seul et je n'ai pas peur de mourir ». Voilà.
Ok, ambiance.
De fait, on est loin des plages ensoleillées ici. Et je trouve ça assez maîtrisé, voire même magistral. Je trouve que ça réinvente quand même le style qu'on pensait assez corseté depuis le début des années 80. Bref, ravi de cet album.
Eh ben, je vous propose d'en écouter un second album. Mathieu, tu as sélectionné The Lines. Ben voilà, c'était donc LA Witch et on va tout de suite passer à Règlement qui sort un nouvel album qui s'appelle Sous Contention et c'est Cédric qui nous a sélectionné un premier extrait, c'est Noir.
Alors ok, pas quoi que j'ai planté, il avait bien cherché. enchaîné à sauter sur un espace. Et bien trop tard, à force d'avoir merdé, ma vie s'éteint. Tout seul dans le noir, tout seul dans le noir. Pensez hôtel, balade en ville et du support traitement. Je suis enfermé, je copte tellement de nerfs, les mots viennent en allemand. Attaché sans raison, pas prêt d'avoir la trique. Pour seule compagne, dernière étreinte, la camisole. Chimique, 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 chimique. Je crie au fou, je pèse mes options, bien trop dur d'assumer. Alors ok, à quoi que j'ai planté, il avait bien cherché. En cinéaste raté, tu réalises mal, et bien trop tard. Avant d'avoir merdé, ma vie s'éteint, tout seul dans le noir. Je crie au fou, je pèse mes options, bien trop dur d'assumer. Alors ok, pas parce que j'ai planté, il avait bien cherché. En cinéaste raté, je réalise mal, et bien trop tard. Avant d'avoir merdé, ma vie s'éteint, tout seul dans le noir, tout seul dans le noir.
Grosse ambiance dans Tatapoum, c'était donc Règlement avec leur nouvel album Sous Contention, et c'est Cédric qui nous en parle.
Ouais, alors on reste dans la noirceur, un peu la thématique de l'émission jusque-là, mais on change d'ambiance et d'univers, donc avec ce deuxième album de Règlement, après un premier LP que j'avais trouvé assez fort et intéressant, qui était sorti en 2021. Alors c'est un groupe parisien issu de la période de confinement et composé de Nico, qui était dans Actions Fall Short, un groupe du début des années 2000 hardcore, et Pat de Frustration, Last Night notamment. Alors ça sort sur les disques Mauvais Garçon, bon comme notre label à ouverture gender on repassera, on va dire, donc c'est le label de Born Bad Record Shop. Avec une très belle pochette d'ailleurs, vous voudrais souligner, en noir et blanc, de Lola Fouilleron sur l'univers hospitalier. Alors l'album se résume à 6 titres, mais assez long. Ici on a mis des plus courts, les titres font plutôt autour de 5 minutes, dont une reprise de Pierre et Bastien, chanteur. Un des titres d'ailleurs que je préfère sur l'album avec passion, même si cette reprise est finalement assez proche de l'original et n'apporte pas grand chose par rapport à l'original. Mais qui était très bien, pareil. Donc j'ai bien aimé. Donc le style ici, c'est un mélange de punk, d'électro-synthé, et le tout avec une voix qui scande plus qu'elle ne chante, comme on a pu l'entendre. La musique est assez mécanique. Je trouve en partie assez déliée du chant, comme s'il y avait une superposition des deux, sans lien immédiat, je trouve, sur l'album. Alors c'est un album concept, comme on dit, autour de l'univers hospitalier et psychiatrique, hein, qui rend compte de la vie atroce des patients et des personnels dont les conditions de travail se dégradent. On va l'entendre notamment sur le titre Ordinaire, qu'on va entendre après. Alors il résume tout ça par la sentence définitive à laquelle on ne peut qu'agréer. La santé est avant tout politique. Alors c'est très noir et cru, glauque, comme on vient de l'entendre, hein, sur ce premier titre, hein, je cite le tout début de l'album, « Je réfléchis moins que la lumière sur une flaque de pisse, comme la vieille d'à côté qui prend ma chambre pour un urinoir. » C'est un peu l'univers de cet album. Ça rappelle les premiers Beru et Nada, en moins bien, je trouve.
Mathieu, aussi sévère ?
Oh non, moi je suis jamais sévère. éventuellement, je suis une mauvaise foi, mais je suis jamais sévère. Mais en fait, moi, j'étais déjà assez accro au premier album sans titre de Règlement, qui était paru effectivement en 2021. Et là, pour moi, c'est la deuxième couche de l'OVNI punk rap avec des textes qui sont éminemment sombres. Ça, vous l'avez bien compris, puisque cet album est dédié à la psychiatrie de manière générale. Et en fait, il me touche d'autant plus que On parle de la ville où j'ai habité en fait jusqu'à mes 18 ans. Donc tu dis c'était quelque part dans l'Oise, c'est à Clermont de l'Oise.
Désolé.
Non mais je t'en veux pas plus que ça. Tout le monde ne connaît pas.
Non mais d'un seul coup beaucoup de choses. C'est clair. On te comprend mieux quoi.
Mais c'est ça parce qu'en fait il faut savoir que dans les années 60 et début des années 70, l'hôpital psychiatrique de Clermont et Fidjams, c'était le plus grand hôpital psychiatrique d'Europe. Donc ça veut dire premier employeur de tout le bassin autour de la commune et dans la rue t'avais autant de malades que de bien portants entre guillemets et tu reconnaissais juste les malades au fait qu'ils portaient des pantoufles. Je rigole même pas, hein, puisque c'était le cas aussi sur le parking du collège et du lycée. Enfin, c'était assez prégnant dans la vie quotidienne. Et donc, moi, je trouve que les 6 titres, ou les 5 compositions, les 5 nouveaux titres, ils collent bien, ils démontrent bien. L'univers la bulle de la chape de plomb que ça peut créer sur une commune ça confirme vraiment tout le bien que je pouvais penser du premier album. Et effectivement, comme disait Cédric, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est la reprise de Chanteur, des regrettés Pierre et Bastien, regrettés dont particulièrement Baptiste, qui était décédé en mai 2019. Je suis pour. Hein, comme disait l'autre. Je suis d'autant plus pour que j'ai pris ma place pour la mécanique ondulatoire et la release party de l'album le 16 mai prochain.
Cédric l'a évoqué, c'est vrai que le disque Les Mauvais Garçons, au-delà du titre, c'est le label du disquaire Born Bad. C'est là où Cédric, tu dois, il laisse une petite moitié de son salaire chaque mois. Et c'est assez intéressant, moi, je trouve, ce qu'ils font sur ce label et explorer plutôt la piste de l'électropunk actuel. Voilà, on retrouve Dick Woodoo et tout. Ah ouais, Dick Woodoo, je les connais. Moi, je dis, quand je connais des gens dans le rock, je le dis parce que vu que j'en connais 3 à peu près, c'est pas souvent l'occasion de le placer. Je suis pas comme Mathieu, moi. Mathieu, quand tu vas avec lui à un concert, il y a quelqu'un qui vient le saluer tous les 3 mètres. Bon, du coup, règlement. Règlement, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une sorte d'électropunk assez brut et particulièrement abrasif. Et moi, le truc de mettre la psychiatrie, les asiles au cœur de ce disque, j'ai l'impression que c'est aussi un retour dans un autre temps, celui où le traitement des aliénés puis des malades mentaux, selon les époques, faisait débat, là où cette question de la psychiatrie était un enjeu politique majeur. C'est l'époque de l'antipsychiatrie de Deleuze et Guattari. Pour faire plus rock'n'roll, c'est la question des berruriers noirs qu'a déjà évoqué Cédric avec Pavillon 36. Enfin, il y a eu aussi une époque où travailler en psychiatrie, avoir recours à la psychiatrie, la place de la psychiatrie dans la société était un peu plus mise en débat qu'aujourd'hui. Et du coup, je trouve cet album vachement intéressant pour ça, parce qu'il essaye de dire, avec les armes qu'il a de cette musique-là, l'état de délabrement de la psychiatrie en France. On l'a vu au moment de la pandémie du Covid, qui a été l'occasion de poser publiquement le constat. C'est le dispositif psychiatrique en France est exsangue. Concrètement, ce que ça fait, c'est que le manque de personnel, et en particulier infirmiers, fait que la contention, qui tendait dans les années 90-2000 à devenir totalement, à être marginalisé parce qu'on avait des moyens humains qui permettaient de compenser le retour à la contention physique et médicamenteuse, est redevenue la règle. Et on a des patients dans un état de... ils sont très abîmés, tout ça. Et ça, c'est des années de destruction de l'hôpital public. Et puis c'est pas en l'air, hein, ça. On peut citer les coupables. On les connaît, par exemple, Douste Blazy, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, Agnès Buzyn, Olivier Véran, ou encore Catherine Vautrin. Enfin, c'est eux qui sont qui sont la cause de cet album. C'est à cause d'eux que vous avez eu cet album. Voilà. Et moi, j'ai pensé à tous ces affreux en écoutant Règlement, et je me suis dit qu'un disque qui nous aidait à mettre des mots pour détester plus encore Catherine Vautrin pouvait pas être un mauvais album. Guillaume.
Bon, je vais essayer d'enchaîner. Bon, moi, j'ai pris sur un autre biais. Hein. Moi, c'est surtout le côté musical qui m'intéresse. Et effectivement, en délaissant la guitare pour le synthé, c'est historiquement dans ce style musical-là que le punk français s'en sort le mieux. C'est ma conviction depuis toujours, de sorte que je peux m'accommoder de l'écoute de ce sous-convention sans avoir à souffrir les travers habituels impartis à nos hexagonaux. Règlement fait place nette à toute filiation punk-rock, et si ce n'est des chœurs sarcastiques sur le morceau chanteur, pour donner toute la place à un cadre musical entre la synthwave à la DAF, hein, sur Ordinaire ou Suicide même, carrément sur Complot, et de l'électro-rap minimal qui peut parfois se rapprocher de ce que fait Colombet sur le morceau chanteur. Une démarche pleine d'aplomb mais pertinente, tant elle se marie parfaitement l'une et l'autre. L'album sonne à la fois très minimal, froid, robotique pour sa partie musicale, et bravache, empli de récrimination et de colère pour la partie chantée. Et c'est une réussite, et j'ai été largement séduit par la démarche. Voilà.
Eh bien, Héloïse ?
J'ai aussi beaucoup aimé ce disque, et pour des raisons que vous avez tous un peu citées. Un peu comme toi, Pierre, ce qui m'a plu, c'est que Règlement pose, à mon sens, les bonnes questions sur les bons accords et avec les mots justes, parce que davantage qu'un duo d'électro-punk synthwave qui a poussé à quelques encablures d'un gigantesque HP, Règlement nous invite dans la lignée de d'autres artistes comme la rappeuse 13 et son livre Charge à une véritable réflexion sur la santé mentale dont les indicateurs ne font qu'inlassablement baisser. Pourquoi les conditions de soins empirent ? Tu as cité les coupables. Pourquoi une solution individuelle ne saurait répondre à un enjeu collectif ? Et à l'heure où la prison est utilisée comme alternative aux huis clos psychiatriques pour des considérations proprement budgétaires, ces questions sont à mon sens prégnantes et urgentes. Et à cette fin, le groupe recourt à un électro-punk rap synthwave hyper pertinent, dont les beats électroniques et les effluves de synthé accentuent la noirceur des textes et mettent en valeur les paroles. 6 morceaux qui évoquent pêle-mêle des situations lorsque l'on est confronté à la psychiatrie, notamment l'isolement, les cachetons ou encore la perte de repères. Il en résulte une sorte de catharsis sonore qui invite à la réflexion. En bref, il s'agit selon moi d'un disque à écouter absolument.
Eh bien, Héloïse, je te propose d'écouter le second morceau de Règlement. Cédric, tu nous as sélectionné Ordinaire.
Le début de la journée,
Voilà, ça c'était un extrait de Sous Contention, l'album de Règlement qui vient de sortir. On va s'éloigner un peu et on va aller écouter Corker. Corker qui sort un nouvel album, Always of Grey. Et Héloïse nous a sélectionné un premier extrait, No Necessities. Voilà, ça c'est Corker et c'est Héloïse qui nous en parle.
Alors Corker est un groupe de post-punk darkwave de Cincinnati dans l'Ohio, formé initialement par trois membres du groupe The Drain, Luke Corvette au chant et à la guitare, Cole Gilfillan à la guitare, Ryan Chenette à la basse, avec l'aide d'Alex Yesterday à la batterie. Après un premier EP en 2023, False True, le groupe revient avec son premier album, Alloy of Grey, sorti en 2024 chez Philips Records, ainsi qu'un nouveau membre, Spencer Morgan, au synthé. Et comme le suggère ce changement de formation, si Corker se laisse aisément épingler sous la bannière un peu bâtarde de post-punk, il s'agit d'un groupe dont la réalité musicale se révèle à l'écoute beaucoup plus complexe. La musique de Corker est dense, nourrie d'influences diverses et en définitive assez insaisissable. Enregistrée dans la ferme familiale de l'un des deux guitaristes du groupe, Cole Gilfillan, dans l'Indiana, ce second album n'échappe pas à ce constat et ambitionne plus encore que le premier de s'affranchir des étiquettes et de brouiller les codes. L'esthétique sonore de Alloy of Grey flirte ainsi du côté de la noise, comme sur le morceau Vetal Fall, du garage et du punk, mais aussi et peut-être surtout de la dark wave à grand renfort de synthé, comme sur le tubesque Distant Dawn. Et c'est bien là la singularité de ce groupe, son aptitude à se promener sur un spectre musical aussi noise que garage, punk et dark wave, de colorer son post-punk à grand renfort de riffs aiguisés de guitare, de sections rythmiques puissantes et de lignes de basse percutantes. Inutile de leur coller une étiquette, celle-ci volera en éclats à l'ouverture du prochain morceau. L'album regorge ainsi de titres mémorables, comme Forever Silence, qui est presque expérimental, avec l'invité au chant Angie Wilcutt, Vetal Fall dont je parlais tout à l'heure et sa géniale intro, ou encore No Necessities qui clôture l'album et que l'on vient d'écouter en éclipsant la batterie au profit d'une boîte à rythme. Pour conclure, je dirais qu'Alway of Grey est loin d'être un album évident, mais que dépasser la rudesse de sa première écoute, il se révèle presque addictif.
Tout à fait, Guillaume.
Oui, oui, je partage aussi cet avis, mais bien que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans aussi, j'ai eu beau savoir qu'ils provenaient de Cincinnati, la confusion qu'ils étaient français m'a longtemps parcouru, tant le niveau de leur instrumentation souffre des mêmes travers qu'on rencontre habituellement dans nos contrées. Leur musique est souvent triviale, la guitare ne fait qu'enchaîner trois accords, la batterie ne semble n'avoir qu'un fût et une timbale, guitare, basse, batterie, synthé, l'ensemble de l'instrument souffre de beaucoup de limites à mes oreilles, et pour autant, malgré le côté sommaire de ce qu'ils sont capables de produire, je recherche ce groupe à vrai sens de l'harmonie, hein, on l'entend bien sur Distant Dawn, une capacité à entremêler habilement les sons sur Forever Silent, un sens de la composition qui transcende leurs lacunes pour devenir émotivement évocateur. J'aime beaucoup aussi aimer Night Ride et des morceaux comme Nothing Is None et Non-Is Cities, pourtant simple et classique, suscite une écoute agréable, en sorte que j'ai largement été séduit, et cela tient au son dur, froid, basiquement répétitif des compos, qui du reste, il faut dire que le style gothique new wave fonctionne toujours avec autant d'attraction chez moi, et Corker sait le manier avec habileté, en rien renversant, mais solide sur les fondamentaux. J'ai bien aimé ce disque. Et par contre, attention, Mathieu, pour aller les voir en concert, c'est coupe mulet obligatoire. Hein. Les cinq garçons l'affichent fièrement, et je pense qu'il faudra la porter.
Eh ben, on attend la coupe mulet de Mathieu. Moi, la première écoute de ce disque, je me suis dit que les gars de Corker, ils étaient en train de courir. Pas en train de faire du running, quoi, en train de cavaler, en train de prendre la fuite, d'essayer d'échapper à un truc. C'est vraiment l'impression que m'a laissé l'écoute de cet album. Et je sais pas derrière quoi, devant quoi il court, le vieux monde, le capitalisme financier, le fascisme, le patriarcat. Enfin, il y a un truc un peu costaud comme ça. Et je pense que ça, il y a une tension dans cette musique qui marche hyper bien. C'est peut-être la basse toujours un peu en avant sur la batterie qui donne cette impression de course ou ce jeu sec de la batterie et ou cette guitare rythmique qui ne cesse de s'emballer. Voilà, j'ai pas mal écouté cet album parce que j'ai trouvé super. En l'écoutant Corker, j'ai d'abord pensé à Joe Cocker, que j'aimais bien quand j'étais petit, mais je me suis dit que j'allais pas faire une chronique là-dessus parce que le jeu de mots tiendrait pas longtemps. Et après, j'ai pensé à Trump, à Musk et à tous les tarés états-uniens qui souffrent sur les braises des conflits dans le monde. Et je me suis dit qu'un jour proche, ça serait la guerre, de taxes en annexion territoriale, et les choses allaient bien finir par dégénérer, et qu'alors on en viendrait à mener une campagne de boycott des États-Unis, et puis que de toute façon les droits de douane de tous les produits US seraient passés à 4000%. Et je me suis dit que si ça continuait, écouter du rock US, ça ferait de nous des traîtres à la patrie, des. Alors bon, je sais qu'autour de cette table il y a que des mauvais Français, mais je me suis dit qu'est-ce qu'on ferait sans le punk états-unien si jamais on en venait à plus pouvoir se fournir chez eux. Alors, avant la guerre, avant l'embargo sur la musique venue des États-Unis, avant le repli nationaliste sur le rock français, je vois dans les yeux de Guillaume une vision terrifiée à cette perspective. Je pense qu'il faut profiter des derniers temps d'un calme tout relatif. Alors bon, moi j'ai remis Corker, j'ai mis ça à fond et j'ai vraiment kiffé. D'abord parce que c'est un excellent album, vous l'avez dit tous les deux avant moi. Et puis je trouve que c'est un produit d'exportation US de premier choix. Mathieu.
C'est assez impressionnant ce que tu viens de dire là, parce que je sais pas si t'avais envisagé toutes l'émission sous cette égide, puisque on sur les quatre groupes il y en a trois qui sont américains. Ouais. C'est peut-être la dernière émission où on passe des groupes américains, si je comprends
ça. Ça sera censuré, quoi.
Ah Héloïse l'a dit. Il y a une partie des membres du groupe qui jouaient dans The Dream, dont on avait parlé lors du Tatapoum 37. Moi, j'avais étonnamment, j'avais pas trop accroché à The Dream. En revanche, j'avais beaucoup aimé un autre groupe cousin. Enfin, c'est un peu tout la même famille hein, du côté de Cincinnati. C'était un groupe qui s'appelait qui s'appelle toujours Crime of Passing, que j'aime vraiment beaucoup.
C'est super ça.
Et je me dis que dans cette histoire de famille, en fait, les chiens font pas des chats. Moi, je pense que pour répondre à ton inquiétude, je me dis qu'en fait, Corker, c'est en gros des Américains qui pourraient ou qui devraient demander la nationalité australienne. Parce que au niveau de l'enthousiasme que ça a créé chez moi, je me suis dit, ah oui, mais ça, ils sont pas américains, ils sont australiens. Donc oui, c'est vraiment une très bonne surprise. Bon, la seule difficulté, c'est qu'il va falloir que je trouve une perruque avec un mulet parce que sinon, vu la taille de mes cheveux actuellement, il va falloir attendre qu'ils viennent dans 10 ans, quoi.
Cédric, qu'as-tu pensé des Australiens de Corker?
J'ai vraiment aussi adoré cet album. Je trouve qu'il commence vraiment très fort quoi, avec le titre, qui est le titre de l'album, hein, donc Always of Grey. Super, super titre. Difficile de résister à une tornade comme un titre avec ce type de titre. Je trouve que quasiment tout l'album est assez excellent. Un peu dans la veine de Homefront, dont on a déjà parlé ici, qui allie post-punk et punk oi avec une énergie très vivifiante. Alors, moi, je suis pas musicien, je connais pas la musique, donc je me trompe peut-être, mais moi, j'avais trouvé, contrairement à ce que disait Guillaume, qu'il y avait beaucoup de trouvailles dans le disque, notamment grâce au jeu des deux guitares qui se répondent régulièrement et qui viennent ajouter des touches originales. Et puis cette voix grave qui vient porter le tout. Alors c'est vrai qu'il y a un petit air de déjà entendu, j'avais aussi noté cette proximité des Australiens, ce qui est plutôt un compliment finalement, quoi. Qui fonctionnait assez bien avec un style assez tubesque dans le noise sur la plupart des titres, peut-être un peu moins sur celui qu'on vient d'entendre, mais dans la plupart des titres. Alors, je savais pas qu'il venait de The Dream, moi j'aimais bien The Dream, mais qui de fait s'éloigne un peu de ce côté-là, c'est tout de suite un peu moins festif, quoi. The Dream est un peu plus compliqué à écouter, mais je trouvais ça déjà très bien. Je trouve qu'il y a pas mal de changements de style entre les titres. Vous avez fait plusieurs fois référence à Florence Silence, qui est vraiment excellent, mais qui est plus Cold Wave Electro. Je suis un petit peu moins convaincu par un titre plus lent et ténébreux, Vital Fall. Mais ça repart directement sur le disque avec le titre suivant, Wying, qui court fenêtre ouverte, quoi. Alors les titres sont longs, je trouve, et permettent aussi des moments différents dans les titres. Donc c'est pas ennuyeux de ce point de vue-là, parce qu'il y a des moments, il y a des fractures dans les titres qui allient une sorte de frénésie et de grande maîtrise. Alors ils disent qu'ils ont pris quand même pas mal de temps pour le faire, cet album. Et je trouve que ça justifie pour bâtir une petite cathédrale vraiment intéressante. Alors j'essaie de le commander. Bon, c'est déjà 20 balles les frais de port là, sans les taxes. Donc de fait, on va faire une croix sur les imports états-uniens quand on les trouvera pas chez nos disquaires, quoi.
Bon, bah écoutez, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de Corker. Loïs, tu nous as mis Vital Fall.
We'll be right back.
Voilà, ça c'était Corker qui vient de sortir donc finalement l'excellent album Highways of Grey. On va changer de style puisqu'on va voir Sklos qui sort un album qui s'appelle The Pattern Speaks et Guillaume nous en a sélectionné un premier extrait, Mind Hive. Voilà, ça c'est Sklos, S-K-L-O-S-S, et c'est Guillaume qui nous en parle.
Sklos est formé, en fait, c'est la formation d'un couple marié de jeunes quarantenaires, Sandy Carson et Karen Sklos. Le nom vient de là. Ils nous viennent d'Austin, au Texas. Sandy fut un professionnel du BMX dans sa jeunesse. Quant à Karen, elle a connu une grande diversité artistique, notamment dans la photographie. Et elle est connue pour avoir coproduit le documentaire que m'avait recommandé Mathieu sur Syd Barrett, Have You Got It Yet, en 2023. Musicalement, Karen Schloss fut membre de Moving Panorama dans les années 10, un indie groupe à la Lush, pour ceux qui connaissent. Et de son côté, l'Écossais Sandy Carson a appartenu à Iglomat, un groupe de post-rock folk, pour dire vite. Autrement dit, la jeunesse du son que déploie aujourd'hui Schloss n'est pas forcément évidente, tant elle est assez éloignée de ces deux styles. En fait, c'est encore une fois et toujours à l'occasion du Covid que cet album a vu le jour. Reclus chez eux à la Cambrousse en 2020, l'exutoire est venu par l'exploration des instruments qu'ils avaient sous la main. De longues jam sessions ont fini par porter leurs fruits et sont devenus cet album, The Pattern Speaks, qui vient de sortir chez Fuzz Club Records, label un peu connu qui accueille notamment un certain King Gizzard, The Lizard Wizard, dont on parle régulièrement ici. Si je devais qualifier leur musique, je parlerais de rock contemplatif, d'atmosphère, une musique où il convient de se laisser absorber par ce qu'on entend comme on l'est par les paysages lorsqu'on voyage en train. À la limite du psychédélisme, aux abords d'une noise évaporeuse et d'un shoegaze bruitiste, la musique de Schloss berce l'auditeur et le transporte dans les contrées lointaines de son imaginaire. Une musique saturante où le chant est peu présent, car c'est par des scansions rapides puis lentes que se déploient les différents morceaux. Ils s'inscrivent dans la filiation d'un groupe comme Earth qui, depuis 30 ans, déploie ce sous-genre de la musique rock, le drone, qu'on associe généralement à une sorte de post-metal, mais qui connaît de nombreuses variations de genre. Donc, pour le coup, Schloss nous donne un aperçu. Donc, cet album m'est apparu suffisamment original, possédant assez de personnalité pour m'intriguer et me le rendre intéressant. Donc voilà, vous pouvez le découvrir aussi.
Héloïse.
Je partage entièrement l'enthousiasme de Guillaume. C'est un album que j'ai trouvé très beau et qui conclut à mon sens cette émission avec brio, un disque qui vous précipite dans une autre atmosphère, quelque chose d'épais et brumeux et surtout de lourd, comme si cette musique-là avait une consistance matérielle propre, comme si les patterns de batterie avaient une réalité matérielle tangible. La singularité de ce disque, ce sont les murs de son que forme le duo, à grand renfort de disto et de nappe de fuzz. Il en résulte un univers sonore très travaillé et une alchimie instinctive dont se dégage quelque chose de très personnel et de très sombre, et au final c'est juste beau.
Ouais, moi je pensais que ce disque ferait davantage débat, hein, parce que c'est Guillaume qui l'a proposé. Mais finalement, c'est vrai que c'est étonnamment écoutable pour une proposition de Guillaume. Hein. Je le prends pas mal, Guillaume, mais t'es dans une mauvaise passe en ce moment, rock'n'rollement parlant, je veux dire. Pourtant, on retrouve dans cet album tout ce qui fait tes tocas de ces derniers mois. Un groupe improbable sur un label presque improbable, des morceaux interminables, du gros son, une batterie, une basse omniprésente. D'ailleurs, dans leur présentation, ils parlent de leur album conçu pendant la pandémie, alors qu'ils vivaient à la campagne, et ils disent vivre près des bois n'y est pas étranger. Bah, tu m'étonnes. Ils coupent du bois, ils scient des planches, ils arrachent des racines, ils mettent le feu à la plaine, c'est ça leur musique, quoi. Évidemment, c'est le chaos, il y a de la distorsion partout, mais au milieu de tout ça, parvient parfois une voix mate et métallique, ferme et droite, qui semble mettre de l'ordre dans tout ce bordel et lui donner quelque chose d'harmonieux, étonnamment. Et finalement, c'est pas seulement crade et violent, c'est aussi quelque chose d'élégant qui finit par se dessiner. Et alors, pendant que j'écoutais cet album, j'ai vu un reportage à la télé sur la manière dont on extrayait le marbre dans les grandes carrières. On a d'immenses machines qui viennent scier des blocs sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur, qui isolent ces blocs, puis ensuite les blocs sont projetés contre le sol, où ils viennent s'éclater, et seuls les morceaux de marbre qui seront solides, qui seront bons pour la construction, vont résister à ce choc. Et on se rend compte dans ce cas-là que la violence, c'est la solution pour avoir quelque chose de solide et de durable. Et ben c'est exactement ce que j'ai ressenti à l'écoute de cet album, c'est que la violence, c'est la solution pour avoir quelque chose d'élégant et de durable. Mathieu.
Alors en fait, allez, je réagis pas sur la violence. Je suis pas assez costaud. j'ai trouvé pour pas mal de morceaux de cet album un aspect assez proche de ce que peut faire un groupe comme Place to Bury Strangers, en moins noise, mais en un poil plus lourd. Avec un chant féminin qui est parfois à la limite de l'Heavenly Voices et qui est quand même assez surprenant. Et surtout, globalement, ce qui aurait pu sombrer dans un genre de doom évite régulièrement cette erreur. Et moi, ça me convient tout à fait. Comme tu disais, on aurait pu craindre en se disant « Ah, Guillaume est allé encore nous chercher un truc métallique qu'on va pas pouvoir écouter au casque. » Bah si, ça s'écoute très bien. Je pense que Guillaume, t'es en train de faiblir un petit peu. moi, je trouve cet album très très intéressant. Il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que visiblement il y a une première tournée hors du Texas qui est en cours, qui est prévue en Europe et au Royaume-Uni au mois de mai. Alors il n'y a pas encore de date en France, hein, ça faut pas exagérer, mais ça veut dire que le groupe change de dimension et arrête de faire le tour de tous les troquets d'Austin, puisque quand on regarde la liste de leurs concerts, c'est vraiment les divers troquets d'Austin, et donc peut-être qu'on pourra avoir la chance de voir le duo un jour en France, et moi ça me fait plutôt envie.
Allez, d'ici là on vous propose d'en écouter un second extrait, c'est Upper Attic.
Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Et ben voilà, puisque les notes de Youssouf Jérusalem nous accompagnent, c'est donc que cette émission touche à sa fin. C'était Tatapoum épisode 62, avec ce soir les Louison Bobet de la Critique Rock, puisqu'on retrouvait autour des micros Héloïse, Mathieu, Cédric et Guillaume. Et puis tout ça se faisait sous la houlette des Jobzotmelk de la réalisation, puisque de l'autre côté de la vitre, on retrouvait Marion et Bibi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon courage pour ce qui vous reste à supporter de dimanche. À ciao.